Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Attendre le printemps, voilà toute sa vie. Aussi loin qu'il se souvienne, il ne s'est jamais lassé de sa lumière, du tremblement neigeux des amandiers en fleurs. Elle croise son visage d'adolescent aux lèvres pleines, au menton téméraire. Elle a juste eu le temps d'apercevoir le tableau avec cette signature si particulière. Dès cet instant, elle le tutoie. Le coup de foudre est là. Elle veut comprendre, elle le questionne, le bouscule, le pousse dans ses retranchements pour percer ses secrets. Lui, le taiseux, le solitaire, se laisse un peu faire. Il concède qu'il a fait le choix du voyage à rebours parce que sa vérité n'était pas là-haut à Paris, mais que pour lui, l'essentiel était d'avoir trouvé sa lumière dans son eau de natal. Lui, c'est Achille, elle. Elle, c'est Michel Tesser, qui nous fait découvrir un peintre post-impressionniste trop longtemps méconnu dans un roman original et lyrique intitulé Achille, elle, un peintre en hiver, publié chez Serge Safran, éditeur. Alors, si vous souhaitez découvrir le nom de ce peintre, restez avec nous, Michel Tesser va tout nous dire à son sujet. Bonjour Michel Tesser.
Bonjour.
Bonjour à nos auditeurs. Je salue votre fidélité et je vous rappelle, avant de débuter l'émission, que vous pourrez réagir à cette émission sur notre site et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Michel Tesser, merci d'être à Parole d'auteur sur Radio Présence. Nous sommes très honorés de votre visite. Première question. Tombez-vous souvent, fréquemment amoureuse des peintres que vous rencontrez ?
Je dois avouer que ce coup de foudre pour Achille Laugier a été un petit peu exceptionnel. J'aime la peinture, je suis peintre moi-même, donc je vis ça, j'ai vécu ça intensément de l'intérieur. C'est vrai que il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie particulièrement, mais je n'ai jamais ressenti ce rapport très particulier que j'entretiens désormais avec Achille Laugier et que j'ai exprimé à travers ce roman.
Voilà. Donc, vous venez nous dévoiler son nom, puisque le roman est intitulé Achille, L majuscule avec un point, c'est-à-dire son nom, c'est Laugier, quelqu'un dont la notoriété est relativement faible et que vous avez donc découvert ou redécouvert d'une manière particulière sur laquelle nous allons revenir. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous présenter, nous dire qui est Achille Laugier ?
Alors, Achille Laugier est né dans un milieu qui ne le prédestinait absolument pas à la destinée d'artiste qu'il a mené. Achille Laugier, Achille L, donc j'ai tenu à garder le mystère, du moins pour le titre, hein, puisque le livre, mais on en parlera ensuite, c'est un petit peu une enquête, un dévoilement progressif de sa personnalité. Achille Laugier, donc, est né dans un petit village non loin de Carcassonne, famille d'agriculteurs, de vignerons. Très tôt, ses parents ont déménagé pour un village un petit peu plus loin, dans la Malepère, qui est, pour faire vite, hein, entre Carcassonne et Limoux, hein, grosso modo. C'est un paysage assez âpre, de champs, de grandes étendues, quelques collines, mais surtout de grandes étendues et un grand ciel immense, un petit peu écrasant, comme je le décris par la suite. Et ce qui est assez extraordinaire dans ce destin, c'est que donc il n'est pas du tout issu d'un milieu favorable. Souvent, les artistes sont issus de la petite bourgeoisie, quand ce n'est pas de la grande bourgeoisie, ou du moins de familles d'artisans, comme ça sera le cas pour ses grands amis des Beaux-Arts. Mais des enfants, des fils de paysans, on en trouve très peu. Ou alors, on va les trouver dans la catégorie des peintres dits naïfs. Par exemple le facteur cheval, des artistes d'art brut. Mais quelqu'un de la stature et de la finesse d'interprétation, de regard et de la finesse artistique d'Achille Laugier, on le trouve rarement issu d'un tel milieu.
Et donc, vous vous l'avez rencontré, on peut dire, par hasard. On reviendra après sur son cheminement particulier. Et alors, ce hasard, il s'est passé il s'est déroulé dans quelles circonstances et est-ce que vous y attendiez ?
Alors, je ne m'y attendais absolument pas. C'est pour ça que vous avez parlé d'un coup de foudre. C'est vrai que ça a été aussi inattendu qu'un coup de foudre. J'étais de passage à Carcassonne sur un autre projet ou une rencontre pour un autre livre. Et j'avais du temps devant moi. Je me suis arrêtée au Musée des Beaux-Arts, que je ne connaissais pas. Je n'étais jamais entrée, j'étais passée devant, j'étais jamais entrée à le Musée des Beaux-Arts. Et puis là, dans ce Musée des Beaux-Arts, j'arrive dans la salle d'accueil et il y avait un buste d'un jeune homme qui m'a paru très, très contemporain. Il y avait quelque chose dans son attitude, hein, dans son espèce de fougue, hein, dans son regard, sa détermination, et puis ses cheveux un petit peu fous, comme balayés par le vent. Il y avait quelque chose de très moderne, de très contemporain, et ce personnage m'a intriguée. Et lorsque j'ai vu sur le socle, hein, de ce buste la signature Bourdel, c'est-à-dire le grand sculpteur que l'on connaît, le sculpteur connu, ça m'a intriguée, effectivement, et c'est là que tout a commencé. Mais ensuite, il y a eu un prolongement, je peux dire, peut-être que le coup de foudre serait allé moins loin s'il n'y avait eu que cette statue. Mais il y a eu ensuite un tableau.
Et c'est ce tableau qui a un petit peu déclenché ou continuer à déclencher ce coup de foudre, mais ça s'est passé le même jour.
Ça s'est passé exactement le même jour, dans l'intervalle d'une demi-heure, hein, puisque j'ai franchi la porte de la salle d'accueil, et dans la première salle, mon regard a été immédiatement attiré par un tableau qui m'a paru là aussi très, très moderne. Je ne sais pas, ça a été un ressenti très étrange. J'ai pensé aux peintures d'Edward Hopper, le peintre américain, à cause de l'intensité de silence, de la présence du bâtiment qui était représenté, une espèce de, je ne dirais pas de sérénité, mais d'étrangeté, d'immobilité, avec un ciel d'un bleu éclatant, des cyprès très sombres, une espèce d'évidence de la peinture. Je me suis approchée de ce tableau et là, stupeur, c'était ce fameux Achille Loger qui m'a accueilli dans l'entrée et qui avait été sculpté, dont le buste avait été sculpté par Bourdel. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, il faut que j'en sache davantage, d'autant que la toile était datée de 1900 à peu près, les années 1900. Donc, déjà par rapport à la peinture de ce temps, par rapport à l'environnement des autres peintures, puisqu'il y avait des peintures de la fin du 19e, il était très moderne, très décalé par rapport au reste.
D'accord, donc c'était un choc à la fois via ce tableau, via son portrait. Et donc, c'est ce jour-là qu'on peut dire que l'enquête commence.
Absolument. Voilà.
Donc, alors, vous avez aussi, peut-être, on pourrait donner une précision aux auditeurs, ce jour-là, vous avez très rapidement remarqué sa signature. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur cette signature ?
Alors, cette signature est très particulière. Elle ne ressemble pas aux autres signatures, puisqu'il y a ce A pour Achille. Donc, moi, mon roman s'appelle Achille L. Lui, c'est plutôt A Loger. Ici, il ne met pas son prénom entier. Mais c'est un A qui a quelque chose d'un idéogramme chinois ou japonais. Et ça m'a frappé aussi. Et j'ai compris ensuite l'origine, hein, de cette analogie un petit peu avec les idéogrammes. Hein. On en reparlera. Mais, et puis en même temps, il y avait ce A avec un petit accent circonflexe, curieusement, posé dessus. Et lorsque j'ai creusé un petit peu dans sa personnalité, dans ce personnage, alors encore mystérieux, J'ai trouvé que c'était un petit peu sa signature mentale, on pourrait dire, hein, cette espèce de liberté qui, je pense, qui a toujours présidé à son destin et à son œuvre.
Alors, Achille Laugier, a priori, vous le découvrez à travers une peinture qui vous paraît atypique ou originale par rapport à son époque. Et si on revient un instant sur sa personnalité est finalement également atypique et un peu originale. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire le monsieur ?
Alors, le monsieur, j'ai reconstitué, on peut dire, hein, son portrait, petit à petit, par fragments, par témoignages que j'ai pu recueillir ici et là. C'était ce qu'on appelle un taiseux. Il avait la réputation dans son village d'être une espèce d'ours, une espèce d'ermite. Il était marié, il avait une famille, mais il était à l'écart, là aussi, de la vie paysanne, de la vie du village. Il ne vivait que pour sa peinture, et je pense qu'il communiquait très peu. Et en revanche, ce qui est assez étonnant, lorsqu'on fouille de l'autre côté de sa personnalité et de sa vie, on réalise qu'il a entretenu, il a continué d'entretenir une correspondance suivie avec Bourdelle, avec son grand ami Bourdelle, le sculpteur. Il a exposé malgré tout dans des galeries de prestige, hein, telles que la galerie Bernheim à Paris. Qu'il a été ensuite dans les années de pré-guerre et pendant la Seconde Guerre mondiale, ami du moins, il a eu des échanges avec Jean Cassou, avec des intellectuels de son temps. Il a participé à la revue méridionale à Carcassonne. Là, c'était vraiment à la fin du 19e. Hein. Donc, c'est malgré tout quelqu'un qui avait une vie intellectuel et artistique riche, et d'un autre côté, qui ne parlait pas beaucoup, qui était, je pense que c'est quelqu'un qui était entre deux mondes, et ça a été peut-être le problème, hein, de sa vie. Il ne pouvait pas se détacher de ses racines, d'un milieu rural qui ne le satisfaisait pas, puisqu'il avait rompu, qu'il avait décidé de suivre sa voie, et un milieu, disons, urbain et plus intellectuel, dans lequel il ne pouvait pas non plus s'intégrer totalement.
Donc son cheminement est un cheminement à double rupture. Une première rupture finalement avec son environnement familial quand il décide de s'orienter vers la peinture. Il monte à Paris pendant 7 ans. Il côtoie de nombreux artistes qui vont devenir des amis, notamment Maillol, Henri Martin, Henri Mar et Bourdelle notamment. Et puis à un moment donné, deuxième rupture, il ne peut pas rester à Paris. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors là, c'est très curieux. C'est un petit peu le mystère, ce mystère du personnage. Enfin, mystère et pas, puisque très vite, on s'aperçoit que je pense qu'il ne pouvait pas vivre à Paris. Ce n'était pas sa lumière. Et d'ailleurs, tout cet entourage auquel vous faites allusion, hein, c'est-à-dire tous ses amis, ses anciens amis des Beaux-Arts de Toulouse, alors il y avait Henri Martin, il y avait Henri Mar, Bourdelle, qu'il a ensuite suivi à Paris. Ensuite, il a rencontré Maillol là-bas. Tous ces gens-là, finalement, ont gardé des liens avec le pays. Henri Martin est revenu, lui aussi, sur ses terres, mais lui a su naviguer, disons, entre Paris et la province. Mais lui, je pense, ce n'était pas son univers. Il avait besoin de ces fameuses racines pour vraiment faire fructifier son potentiel artistique. Et j'ai relevé dans une interview, enfin on dirait aujourd'hui une interview, enfin des propos de Maillol, d'Aristide Maillol, qui dit à un moment donné « Ah oui, j'en ai assez de cette lumière, merde à Barbizon ». Voilà, et franchement, parce que ça c'est Maillol, hein, qui était lui un franc-parleur, il avait un franc-parler, contrairement je pense à Achille qui préférait se taire. Voilà, il y a eu cette espèce de rébellion, je dirais, des sens, hein, et qui sous-tendait le sens artistique de ces hommes du Sud qui ne se reconnaissaient pas dans cette lumière, puisque on est en plein post-impressionnisme, et l'impressionnisme, c'est malgré tout un art qui s'est développé dans les tremblements de lumière du bassin parisien, des bords de Marne, des bords de Seine. Et c'était pas leur lumière. Voilà. Donc Mayol, lui, est revenu, lui aussi, à jouer le jeu entre Paris et la province. Enfin, il s'est installé grandement à la Métairie, hein, sur les hauteurs de Banyuls. Et Achille Laugier a voulu retrouver sa lumière, ce qu'il a fait. Donc, rupture totale avec Paris. Évidemment, il envoyait ses toiles à Paris, chez ses marchands. Il allait de temps en temps à Paris, mais il avait besoin de son pays, de sa malle-père, pour nourrir, justement, son inspiration. Tout tourne autour de ses attentes, ces atmosphères du Sud, puisque son inspiration, en fait, on en parlera un petit peu après, sûrement, elle tournait autour de sa maison, autour de son mas. Il n'allait pas très loin et il répétait à l'infini des paysages, mais toujours dans un contexte différent.
Alors effectivement, nous allons voir tout cela en détail, et en particulier les conséquences de cette décision dans sa vie et dans sa vie d'artiste. Mais auparavant, je vous propose une première pause musicale.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Michel Tesser pour son ouvrage Achille L, un peintre en hiver. Et nous venons d'avoir le plaisir d'écouter d'Éric Satie un extrait des Gymnopédies. Pourquoi avez-vous choisi ce morceau ?
Alors, c'est un morceau que j'aime beaucoup, parce qu'il a une espèce de mélancolie joyeuse, de mélancolie du moins. Et je trouve qu'il, premièrement, on est dans l'époque hein, d'Achille Laugier, il est presque contemporain. Il me faisait penser également à un contemporain d'Achille Laugier, plus âgé que lui aussi, qui s'appelait Paul Lacombe, qui était un compositeur, qui a écrit des pièces pour piano qui se rapprochent un petit peu de ces pièces d'Eric Satie. Et ce Paul Lacombe a eu le même destin, les mêmes choix qu'Achille Laugier, puisqu'il était originaire de Carcassonne, pas du tout le même milieu, mais il aurait pu faire carrière à Paris. Il a eu d'ailleurs des responsabilités au conservatoire à Paris, il a été ami de Bizet, de Gounod, et puis il a préféré revenir. Et je n'ai pas trouvé d'enregistrement satisfaisant hein, de Paul Lacombe, il fait partie des grands oubliés, donc ben, j'ai choisi Satie, mais je pense qu'on ne s'en plaindra pas.
Absolument pas. Et on pourrait peut-être aussi faire la comparaison ou l'analogie avec Achille Laugier, dans la mesure où on peut dire que peut-être Eric Satie, lui aussi, brave les règles de son art de manière, je dirais, nette et insistante, un peu comme le fait dans la peinture Achille Laugier.
Absolument. Vous avez raison, il y a une double analogie. Il y a quelque chose de semblable un petit peu dans leur personnalité, bien que Achille Laugier n'ait jamais revendiqué ouvertement une révolte. Ce n'est pas un théoricien. Achille Laugier est quelqu'un qui travaille sur autour de la sensation, autour de autour du silence, et je pense que ce n'est pas un individu revendicatif, c'est quelqu'un qui est sûr de la voie qu'il a choisie, qui persiste avec ténacité. D'ailleurs, c'est ce que j'avais vu dans son regard, dans notre première rencontre, hein, cette ténacité, cette opiniâtreté même, que certains ensuite qualifieront d'obstination. Hein. On trouvera qu'il est fermé, qu'il est obstiné. Et je crois que c'est ça sa caractéristique. La fidélité à ce qui, pour lui, était important, qui était en lui, et qu'il s'agissait de préserver à tout prix, en dépit des modes. Puisqu'il ne suit pas les modes, il ne suit pas les courants. Il va trouver une technique, certes, post-impressionniste, pointilliste, on peut dire, on peut vraiment mettre des étiquettes, mais sa peinture, malgré tout, résiste aux étiquettes. Elle a une originalité profonde, il suffit pour ça de s'approcher de ses toiles ou de ses pastels ou de ses dessins pour voir qu'il s'agit d'autre chose, il s'agit de quelque chose de très, très fin, très intellectuel, dans le geste, si ce n'est dans le propos, mais dans la gestuelle, il y a quelque chose de très, très délicat, très enlevé. C'est tout sauf une peinture, excusez le mot, mais rurale, hein, c'est-à-dire dans le sens de la lourdeur hein, qu'on attribue à ce mot, forcément, sûrement. Hein, mais c'est une peinture en même temps, non pas cérébrale, mais intellectuel et sensible. Voilà.
Et de toute façon, il n'a pas une personnalité à fonder une école ou à monter un courant, à conceptualiser. Comme vous dites, c'est quelqu'un de très pragmatique. Alors, je voudrais que l'on revienne un instant qu'on fasse un zoom sur les personnages du roman. Alors, le premier personnage, on peut dire que c'est Achille Laugier. Et j'ai envie de dire que le second personnage, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous vous situez dans un dialogue avec lui, vous le tutoyez, puisque très rapidement, vous sentez que vous êtes très proche de lui. Et vous le dérangez, vous lui donnez des conseils, vous lui demandez des explications sur ses choix. Et alors en particulier, par rapport à la grande décision qu'il a prise de revenir de Paris, vous essayez de lui faire comprendre que peut-être il a loupé le coche, si on peut dire. Vous lui dites, si tu avais pris un autre chemin, peut-être aurais-tu été plus heureux. Dans la douce anesthésie du renoncement, la torpeur d'une vie sans surprise.
Oui, puisque son père voulait au départ, son père qui était, comme je vous l'ai dit, agriculteur, son père voulait un destin meilleur pour son fils. Il ne voulait pas forcément le garder à la terre, hein, dans l'exploitation familiale, chose qu'a fait le frère d'Achille Laugé, puisqu'il avait un frère et une sœur. Mais son père, au contraire, voulait le pousser vers des études de pharmacie. Il voulait qu'il soit, si ce n'est pharmacien, du moins préparateur en pharmacie. Et il l'avait envoyé, d'ailleurs, faire des stages, dirait-on aujourd'hui, dans des pharmacies à Limoux, à Carcassonne. Et il l'avait inscrit à l'école de pharmacie à Toulouse. Et Achille Laugé n'en faisait qu'à sa tête déjà. Et il allait en clandestin, il faisait l'école buissonnière, il préférait aller aux Beaux-Arts. Voilà. Donc, cette vie à laquelle je fais allusion, cette vie possible, sans surprise, c'était cette vie de pharmacien, peut-être, ou de préparateur en pharmacie, de notable de province. Pour son père, qui croyait bien faire, c'était un avancement, hein, c'était une avancée sociale dans la famille. Mais lui a préféré dire non.
Et alors, cette décision... je dirais, l'animera jusqu'à sa mort, puisqu'il ne renoncera pas et il avancera dans son art. Et donc, vous l'interpellez au sujet de cette décision, comme vous interpellez d'ailleurs ses amis qui ont fait le même cheminement, puisqu'à un moment, vous écrivez, en vous adressant à Marc, à Martin et à Laugé, vous avez fait le voyage à rebours parce que ce n'était pas votre lumière, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que votre vérité n'était pas là, ou peut-être par manque d'audace, prisonnier comme Achille, des racines qui retenaient votre talon. C'est-à-dire que là, vous le poussez, vous les poussez dans le retranchement, mais ça s'adresse plus particulièrement à Achille Laugé en disant, effectivement, est-ce que ça a été une décision positive ou une décision par défaut ?
Alors effectivement, ce qui a été une décision positive à un moment donné, hein, cette détermination à se réaliser, à être ce pourquoi on se sent né, elle a pu ensuite, non pas se retourner contre lui, mais du moins le desservir, ou du moins elle est sujette à questionnement. C'est-à-dire que si on regarde ça, si on considère sa carrière et l'évolution de sa peinture, on s'aperçoit qu'il est passé à côté de tous les courants artistiques de son temps. Puisque malgré tout, Achille Laugé, quelqu'un qui naît en 1861, qui meurt en 1944, et donc il a vu passer l'impressionnisme, le post-impressionnisme, mais ensuite le cubisme, le surréalisme, le fauvisme, tous ces courants de peinture, il les a vus passer, et ça l'a laissé intact. Donc, est-ce que... Et à un moment donné, d'ailleurs... C'est perceptible dans sa peinture, puisque vraiment j'ai enquêté sur le personnage, mais aussi j'étais vraiment à l'écoute, hein, j'ai plutôt scruté sa peinture et les évolutions de sa peinture, à travers dans des musées, des collections, etc. Ben, on s'aperçoit qu'à un moment donné, elle s'essouffle. Elle manque sûrement de ce renouvellement, de ce fait de se frotter à d'autres formes d'expression, de s'auto-questionner. Donc, on peut dire qu'à un moment donné, ça a été une arme à double tranchant pour Achille. C'est la raison pour laquelle je l'interpelle. Je ne suis pas toujours très tendre avec lui. Mais il a su évoluer, et ce n'est pas une peinture monolithique, puisqu'on voit très nettement les variations de sa, non pas de sa palette, mais plus exactement de son trait, de sa touche, Entre les années 20, 30 et les années du début, il y a, je ne dirais pas une évolution, mais des changements, des modulations qui montrent un esprit capable de se renouveler aussi, mais toujours rebelle aux mots d'ordre, rebelle aux... Voilà, il suivait sa route.
Voilà. Et donc, on peut dire qu'il était un peu rétif à l'académisme du moment. Et vous citez, vous le faites parler en lui faisant dire « L'académisme que j'ai connu, ce n'était que de la boursouflure ». C'est-à-dire que, certes, il se met en retrait, mais il observe quand même ce qui se passe, mais il n'y adhère pas.
Hein? Absolument. Disons que les années passées à Paris ont été formatrices, puisque, évidemment, aux Beaux-Arts, les maîtres, les enseignants des Beaux-Arts à Paris, lorsqu'il y était, c'était les grands noms de la peinture, ce qu'on a appelé à un moment donné la peinture pompier. Hein, c'était les grandes scènes d'histoire, toutes ces évocations très réalistes, l'académisme. Et évidemment, tous ces jeunes peintres ont été en rupture, en rébellion. Ensuite, il y a eu, donc, il a pu voir les grandes expositions impressionnistes qui sûrement l'ont secoué. Il avait en même temps accès aux grandes œuvres du Louvre et je crois qu'il faisait son... Il a fait son marché, là. Il a fait son... Il s'est fait un œil. Il a choisi, du moins, ce qu'il ne voulait pas. Et il a fait sa... Il a choisi, il a créé ses propres outils picturaux. Et je crois que c'est ça, sa force, son originalité.
Alors, donc il ne regrettera pas, il persistera, et il arrivera néanmoins à vivre de son art que très difficilement.
Bien sûr. Contrairement à quelqu'un comme Bourdel, qui va très vite percer, Maillol également... Pourquoi ? Parce qu'ils ont joué le jeu de Paris. Bourdel s'est installé à Paris, définitivement. Il avait son atelier, il avait des élèves femmes d'ailleurs, puisque les femmes n'étaient pas admises aux Beaux-Arts. Donc ça faisait vraiment... C'était Florès pour les ateliers privés. Donc Bourdel a créé son atelier, il a eu le succès qu'on connaît très très rapide, Maillol également. Henri Martin... puisque là, on peut parler de la catégorie des peintres. Henri Martin, qui est né à Toulouse, hein, lui a joué aussi le jeu parisien, bien que vivant la plupart du temps en province, mais il a su exploiter son réseau. Alors, par bonheur, Achille Laugier avait un réseau de fidèles, puisqu'il avait parmi ses amis, ses grands amis de lycée, il y avait les Sarraux. Les deux frères Sarraux, dont un est devenu patron de la Dépêche, et l'autre a été ministre, il a eu des grosses fonctions. Donc il avait ce réseau qui l'a aidé. À un moment donné, d'ailleurs, il a eu une commande de la part de la manufacture des Gobelins pour du mobilier national. Donc il a su à peu près vivre. Mais c'était difficile, puisque n'ayant pas l'habileté de Martin, de Bourdel, bien sûr, de Maillol, il est resté en retrait. Et il n'a pas eu cette cote. C'était pas un homme de salon, ni d'entre-gens. Donc, heureusement, il avait ses amis fidèles qui lui ont trouvé des commandes. Alors, on trouve beaucoup de Laugier, justement, dans les salons, dans les vieilles familles toulousaines, ou à Limoux, à Carcassonne, puisqu'on lui passait commande, par amitié aussi, pas parce que à cause de son talent, hein, mais il a fait beaucoup de portraits, il a fait beaucoup de bouquets de fleurs. On pourrait dire qu'il a donné dans le décoratif ou le portrait de commande, hein, beaucoup. Ça lui permettait de vivre, d'entretenir sa famille, mais là aussi, peut-être qu'il a renoncé à quelque chose de plus vaste.
Non, c'est ce que nous allons voir en suivant, juste après cette seconde pause musicale.
Oh.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous poursuivons la connaissance d'Achille L, un peintre en hiver, grâce à Michel Tesser. Michel Tesser, ce morceau que nous venons d'entendre, quel est le rapport avec Achille Loger ?
Alors, ce morceau est un extrait de l'opéra de Léo Delibes, L'Acmé, et ça s'appelle Le Duo des Fleurs. Et je trouve que c'était particulièrement en accord avec la peinture d'Achille Loger, qui a tellement aimé les fleurs qu'il les a peintes. Et lorsque je vois un tableau de fleurs d'Achille Loger, je sens les parfums de ces fleurs. Il y a quelque chose de très... Oui, qui se dégage lorsqu'il peint, par exemple, des dahlias. Ce sont toujours des fleurs simples, des fleurs de jardin, puisque alors, ce n'était pas Monet, mais malgré tout, il cultivait ces fleurs dans son jardin, les fleurs dont il se servait, qui devenaient ses modèles. Ou bien il prenait des herbes des champs, il cueillait des... Il y a un très joli petit bouquet champêtre qui se trouve au musée Fabre à Montpellier. Juste quelques coquelicots, quelques bleuets, des marguerites. Sans ça, il y a de somptueux bouquets de roses. Et surtout, ces dahlias, ces fleurs simples de jardin d'autrefois. Voilà. Donc, j'ai choisi. C'est un morceau que j'aime particulièrement, qui est et puis dans lequel il y a aussi là aussi une mélancolie, une invitation à la déambulation, à la promenade, qui était malgré tout cette déambulation champêtre, c'est celle d'Achille Loger.
Et peut-être quelque part, donc, pour faire une transition sur sa peinture, à la contemplation, parce qu'on peut dire que c'est un peintre contemplatif, un peintre du silence, un peintre de l'immobile. Alors, je voudrais que vous nous développiez un petit peu cette explication de son goût du vide, du lumineux, du silencieux. C'est un peintre qui ne peint pas, qui ne cherche pas à saisir l'instant, mais qui cherche plutôt à s'installer dans l'immobile.
Effectivement. Contrairement aux post-impressionnistes, ou aux impressionnistes hein, plus exactement, dans lequel on a tendance à le ranger, il ne choisit pas de peindre les changements de lumière, les vibrations, les fluctuations. Il cherche au contraire à rendre compte de l'immobilité. Et lorsque vous parlez de contemplation, c'est effectivement, vous avez totalement raison, c'est un peintre contemplatif, c'est un contemplatif. Si bien que j'ai pensé d'emblée au primitif italien, ça peut paraître très curieux, mais j'ai trouvé dans le bleu de ces ciels, ça m'a rappelé cette peinture éminemment mystique et contemplative des primitifs italiens, où on ne recherche pas le changement des choses, mais où on recherche la stabilité, la contemplation, un ciel immobile, un ciel bleu, c'est le vide de l'absolu, finalement. Et ce que va peindre Loger, c'est le soleil à son zénith. La plupart du temps, ce sont de grands ciels bleus, ou bien si c'est le soir, ça va être des ombres étirées, mais toujours une grande paix, une grande immobilité. Donc, pour moi, Achille Loger est effectivement un peintre du silence. D'ailleurs, on l'appelait l'ermite de Caillot, Caillot étant le village. Et je pense que c'était assez finement vu, finalement. Là, bien sûr, on faisait allusion à son attitude, le fait qu'il était taiseux. Mais je pense que c'était un ermite de la peinture à sa manière.
Alors vous résumez tout cela dans une jolie phrase en parlant d'une quête de l'immobilité parfaite, du soleil zénithal, du printemps et de l'été. Et sa vie finalement a été une attente du printemps répétée 80 fois à peu près pour capter cette lumière qui lui tenait tant à cœur et pour capter cette lumière pour laquelle il était finalement revenu au pays.
Oui, lorsque... Alors bien évidemment, je suis allée sur les lieux, mais pas immédiatement. J'ai voulu d'abord voir ce que disait, voir jusqu'au bout ce que disait sa peinture. Et sa peinture, dans les musées où elle est présentée, où donc il y a différentes époques de sa peinture. Donc je voulais voir quelle était la constante. Je voulais, puisque l'essentiel chez un artiste, hein, qu'il soit auteur, qu'il soit peintre, qu'il soit sculpteur, c'est son œuvre. C'est moins le bonhomme ou la bonne femme que son œuvre. Donc je suis d'abord passée par là. Et ensuite, je me suis rendue sur les lieux. Je connaissais déjà ces paysages du sud, ces paysages de l'Aude que j'aime beaucoup, puisque j'ai consacré aussi d'autres romans, disons, qui se déroulent dans ces paysages. Mais je suis allée sur les lieux et effectivement, j'ai compris vraiment sa peinture aussi de l'intérieur. J'ai compris ces ciels immenses, puisqu'il y a... Dans la Malepère, souvent, dans le Razès plus exactement, où il a vécu, c'est trois quarts de ciel et un quart de paysage. Des sentiers qui vont vers l'infini, on ne sait pas trop où ils vont. Et lui, c'est un peintre de la route perpétuelle. Je pensais aussi à Jack Kerouac, qui avait écrit On the Road. C'est une espèce de beatnik magnifique. Il est là, il est sur le chemin, et ce qu'il peint, c'est un chemin qui continue, mais qui ne va vers rien, finalement, sinon vers l'instant. Et ces chemins, alors je les ai vus, je suis bien entendu, je me suis rendue sur les lieux au moment où ce qu'il peint éclot, c'est-à-dire au moment en février, lorsque les amandiers sont en fleurs, et c'est vrai que c'est miraculeux. On voit dans ce paysage austère toutes ces touffes blanches, d'une blancheur immaculée. Il y a aussi un autre moment, et là j'y étais récemment, où tous les genêts sont en fleurs. Et là, sur les collines de la Malepère et du Razès, on a tout cet or des genêts qui éclate. Et c'est ça, ce miracle répété 80 fois, comme vous l'avez dit, 80 fois les amandiers, 80 fois les genêts qui se répètent et qu'il a voulu, on peut dire, fixer, glorifier, chanter.
Alors, il glorifie le jaune des genêts parce que leur jaune est plus précieux que l'or parce qu'il est éphémère. Hein, c'est ce que vous écrivez. En revanche, il dit, vous lui faites dire, le noir, crois-moi, ça n'existe pas. Et en particulier, ça devient presque une profession de foi par rapport à sa pratique majeure.
Oui, le noir, il n'emploie pas de noir. C'est toujours... Alors ça il y a évidemment l'héritage des impressionnistes, hein, l'héritage des pointillistes. Il y a c'est un jeu de couleurs, des superpositions qui font qu'on va avoir les ombres, les lumières, les tons clairs, les valeurs claires, les valeurs sombres. Mais le noir, donc, c'est, en même temps, c'est un refus, à mon sens, c'est plus profond. C'est un refus de la noirceur. Il est dans la lumière. C'est une espèce d'acte de foi, comme ça. Être dans la lumière, dans la clarté, dans la beauté et dans cet instant vécu, immobile.
Et il prolonge ses convictions en termes de peinture à travers les portraits qu'il fait. Donc, nous n'aurons pas le temps d'approfondir sa pratique du portrait, mais vous lui faites dire, c'est ce qu'il faut dans le silence, c'est ce qu'il faut dans un portrait, ce qui est en totale cohérence avec la manière dont il veut saisir les paysages également.
Alors, qu'il s'agisse de paysages, qu'il s'agisse de fleurs, qu'il s'agisse de portraits, peu importe le sujet, il les traite de la même manière. C'est-à-dire que les personnages, il ne cherche pas dans les personnages une espèce de portrait psychologique plein de... C'est l'inverse de Daumier. Daumier qui va saisir jusqu'à l'extrême, jusqu'à la caricature, la psychologie d'un personnage, son trait essentiel, son profil moral, on pourrait dire. Non, il y a un hiératisme dans les portraits de Laugé qui m'a fait penser soit à la sculpture antique aussi, où il y a une espèce de vide d'interprétation psychologique. Le personnage est là. Il n'y a pas de jugement porté sur lui. C'est sa présence qui est mise en valeur. Voilà, ce qui... Et d'ailleurs, Nicole Tamburini, qui est la historienne, critique d'art et spécialiste de Laugé, qui m'a beaucoup accompagnée dans la découverte de l'œuvre d'Achille Laugé, parle effectivement de cette austérité presque... Cathare, elle appelle ça. C'est-à-dire que, alors cathare, c'est un bien grand mot, on parle beaucoup du catharisme dans le sud, on l'associe au sud, mais c'est vrai que si cathare veut dire austère, une espèce d'austérité, de hiératisme comme ça, c'est vrai que Laugé est dans cette lignée. Il y a un portrait qui, à mon sens, est vraiment représentatif de son art et de ce qu'il peut être et de toute la stature véritable de Laugé. C'est le portrait qu'il fait de son épouse, qui est un très grand portrait, un buste, où son épouse est représentée, elle doit avoir 30 ans à peu près, disons la quarantaine, et elle est de face, elle est très hiératique. Elle pose avec comme fond le jardin, avec des roses trémières. Et le jardin est écrasé de lumière, tellement écrasé qu'on ne le voit pratiquement plus. Il n'y a que cette lumière d'été. Et son épouse est représentée à contre-jour. C'est-à-dire que ses traits ont pratiquement disparu. Ce n'est plus qu'une présence, une ombre. Alors il n'y a rien de misogyne là-dedans, mais il y a au contraire... une espèce de... Ça devient une déité antique, hein, une divinité, un petit peu comme les Vierges Noires ou les statues de Junon. Et je trouve que là est résumé l'art de Laugé. Son audace, il a eu le culot de faire un portrait à contre-jour. Évidemment, ça a fait scandale. Le portrait a été refusé au Grand Salon de 1899, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Ça a été refusé. Tout le monde s'est moqué de ce portrait à contre-jour. Et je crois que là, on mesure tout le courage, finalement, de ce petit bonhomme, parce qu'il n'était pas très grand, il n'avait pas une prestance ni une habileté sociale, hein, comme on l'a vu. Je crois que ça donne toute sa dimension, son audace, sa fidélité à ce qu'il était et son caractère solitaire et finalement jusqu'au boutiste de la peinture, mais sans revendication, avec une revendication sûre et tranquille.
Alors, au-delà du peintre, votre ouvrage est presque un guide de recommandation pour savoir rencontrer un peintre. Et finalement, vous concluez que malgré tous ces conseils, lui-même vous dit tu peux revenir au même endroit, tu peux te retrouver dans les mêmes circonstances, mais tu ne retrouveras pas exactement la même chose. Donc quelque part, c'est une quête qui est peut-être vaine et qui sera toujours très difficile. Vous précisez beaucoup d'autres choses au sujet d'Achille Laugé. Je recommande aux auditeurs dans ce livre le passage où vous expliquez comment il peint sur le motif avec la petite carriole qu'il a fabriquée. Et de la même façon, la notion de salon des réfugiés qui est très présente dans cet ouvrage, puisque effectivement il se trouvait un peu en marge et il connaissait le sujet, hein, finalement. Voilà, je crois que nous avons fait un bon petit aperçu de la vie d'Achille Laugé. Michel Tesser, merci beaucoup d'être venu à Parole d'auteur. Je rappelle votre livre « Achille, elle, un peintre en hiver », paru chez Serge Safran éditeur. Je remercie les auditeurs pour leur fidélité, Christophe Aubry à la technique pour son soutien permanent, et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission et qu'elle est désormais disponible sur toutes les plateformes numériques et que toutes les semaines, Parole d'auteur est diffusée le mercredi à 10h, suivie d'une première rediffusion le vendredi à 19h et d'une seconde le samedi à 17h. Michel Tesser, au revoir.
Merci à vous.
Au revoir à nos auditeurs.